Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Cèpe, mousseron et autres chanterelles pointent le bout de leur nez depuis quelques semaines. Nous sommes au cœur de l'automne, une saison traditionnellement associée à la cueillette des champignons et aux promeneurs gourmands qui partent à leur recherche. Qu'est-ce qu'un coin à champignons ? Comment reconnaître les espèces comestibles ? Quel est le rôle de ces organismes dans les écosystèmes ? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec François Thévenon, cuisinier, botaniste et animateur en plantes sauvages comestibles. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes également auteur d'un livre intitulé « Le petit guide des champignons, 70 espèces à découvrir ». Nous en reparlerons tout à l'heure. Peut-être pour commencer tout simplement, pouvez-vous peut-être simplement nous rappeler quelles sont les conditions climatiques qui doivent être réunies pour qu'apparaissent des champignons sauvages ?
Alors, si on parle des champignons de cueillette, ceux qui intéressent le plus les gens qui veulent les ramasser pour mettre dans leur panier, il faut de l'humidité. C'est pour ça que les pluies d'automne s'y prêtent souvent, ou un été pluvieux. Il y en a eu ces dernières années, parfois, un été pluvieux. Un mois de juin est exceptionnellement pluvieux, qui a été très propice. Il faut de l'eau, en tout cas. Mais si on veut simplement observer les champignons, on en voit toute l'année. Il y a des champignons qui poussent sur le bois, qui durent pendant plusieurs semaines, tout ça. Mais effectivement, c'est surtout septembre, octobre, si les pluies sont là, qui sont les deux mois les plus propices pour aller remplir le panier, disons.
Est-ce que cet automne 2022 est particulièrement propice à la cueillette des champignons, malgré la sécheresse qu'on a connue cet été, notamment ?
Il y a eu de la sécheresse cet été, mais là, il y a de la pluie. Il suffit de quelques jours de bonne pluie pour que pas mal de champignons sortent. À vrai dire, moi, comme je ne regarde pas que les choses qui se mangent, je ne me rends pas forcément compte d'à quel point ça va séduire les cueilleurs. Mais moi, en tout cas, on a fait une sortie la samedi où on a vu une bonne vingtaine d'espèces, même sans trop cavaler, très variées. Ouais, bah, pas mal de choses qui sortent, rien qu'avec les pluies qu'il y a eu. Ça peut aller assez vite. Et ce que je remarque souvent, c'est que des gens se plaignent quand une période est sèche. Mais sur une année complète, il y a généralement toujours une période qui va être suffisamment humide pour que des champignons apparaissent.
Pouvez-vous rappeler le béaba d'une sortie champignon ? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour identifier des espèces qui pourraient être intéressantes et quel matériel peut-on emporter avec soi ?
Je dirais qu'avant d'aller à la récolte, il faut apprendre à les regarder. On a très envie, je sais que ça donne envie et qu'on voit tellement de gens avec leur panier plein. Et puis il y a un côté un peu trésor, chasse au trésor avec les champignons. Ça donne très 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 envie. On a très envie, même quand on s'y connaît peu, d'aller tenter cette expérience. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est d'apprendre à les observer d'abord avant de partir à la cueillette. Alors on peut tout à fait, même quand on veut juste aller les observer, s'équiper d'un panier. On ne prendra jamais un sac en plastique parce que c'est tout écrasé dedans, ça garde l'humidité, c'est pas bon le sac en plastique. Il faut une cagette à laquelle on peut fixer des anses, hein, des bouts de ficelle, ou sinon un panier, c'est très bien. Dans le panier, généralement, on va mettre un peu de mousse, sans en prélever trop. On ne va pas piller toute la mousse qu'on trouve dans la forêt, mais ça permet de maintenir les champignons un peu à plat et qu'ils ne s'écrasent pas, qu'ils ne bougent pas trop. Et comme ça, on pourra prélever même ces espèces qu'on ne connaît pas. Parce qu'il n'y a pas de risque, en fait, à toucher un champignon toxique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui pensent que, oh là là, même au contact, même à toucher, oh là, le champignon toxique, ça va nous faire du mal. Non, il n'y a vraiment aucun problème à manipuler, même un champignon, même les plus toxiques, hein, même de la manie de phalloïde qui est mortelle, au contact, il n'y a absolument aucun risque. Donc, on peut la prélever.
Se toucher le visage, par exemple, que c'est déconseillé.
Non, absolument aucun risque. Il y a un risque qui est exagéré avec les champignons parce qu'ils sont méconnus, je pense. Donc, il y a une peur. Généralement, quand on connaît pas quelque chose, ça va avec la peur. Il n'y a pas plus de risque à toucher les champignons, à se toucher le visage, que d'aller toucher des bouts de bois, mettre les mains dans la terre, cueillir des plantes, tremper ses mains dans un ruisseau. Voilà, on va revenir de balade, on va se laver les mains, c'est des mesures d'hygiène de base, mais il n'y a pas particulièrement avec les champignons ce risque-là.
C'est important de le préciser.
Tout à fait.
Vous parliez d'identification. Une fois qu'on a bien identifié un champignon, voilà, on a repéré que c'est un cèpe. Pour le récupérer, pour le couper, il y a une méthode particulière pour favoriser la repousse, pour ne pas abîmer le
Alors, c'est une question classique. Et je pense que c'est hérité de croyances des anciens qui pensaient que les champignons étaient des plantes. Donc, que les petits filaments qu'on voyait à la base étaient des racines. Et qui pensaient que si on coupait le pied, ça pourrait, si on arrachait le pied, ça pourrait pas repartir. Ils pensaient que c'était comme des arbres, comme des châtaigniers ou des charmes, que quand on coupe, ça va repartir, ça va recéper. Ce n'est pas le cas. Les filaments qu'on voit dans le sol, qui ressemblent à des racines, c'est ce qu'on appelle le mycélium, c'est la partie qui est là tout le temps. De ce mycélium, quand les conditions sont bonnes, donc conditions de température et conditions d'eau, entre autres, d'humidité, de ce mycélium va sortir la partie que nous on voit, qui est le champignon, le truc qui a généralement un pied, un chapeau, qui est la partie qui va nous intéresser à récolter. Mais l'image qu'on fait souvent, c'est imaginer que le mycélium, ce soit le pommier, et que le champignon que nous on voit, c'est la pomme. Est-ce que ça vous choquerait de couper ou d'arracher la queue de la pomme? C'est pas parce que vous laissez la queue que la pomme va revenir. Mais comme les anciens ne savaient pas que les champignons n'étaient pas des plantes, au niveau de la classification, c'est un domaine à part, hein, c'est les fonges, c'est pas la même famille que les végétaux, c'est pas le même ordre que les végétaux, ça pose pas de problème. On va éviter d'y aller à la bêche, de tout arracher comme une brute, hein, de la même manière que quand on cueille une pomme, on va pas casser la branche. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on plante la lame d'un couteau à côté du pied pour faire légèrement levier, puis on le tourne légèrement pour l'avoir en entier, ce qui permet d'avoir aussi la base du pied sur laquelle on peut parfois observer des caractères importants, voir s'il y a une volve, donc un petit sac qui englobe la base du pied, qui est déterminant pour reconnaître certaines amanites, comestibles ou toxiques, ou voir une couleur particulière, voir si la base du pied est renflée, bulbeuse. Donc ça, pour l'observer, il faut le prélever en entier. Et du moment qu'on n'y va pas comme une brute, c'est pas du tout un problème. Il y a cette manie, il y a beaucoup de cueilleurs traditionnels qui sont encore à l'ancienne, qui ont appris avec leur grand-père, qui avaient appris avec son grand-père, qui sont encore à penser qu'il ne faut surtout pas les arracher, mais qu'il faut les couper. Ce n'est pas le cas.
Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a pas mal de croyances autour des champignons qui ne sont pas forcément vérifiées scientifiquement. D'ailleurs, ce qu'on appelle communément champignons, ça regroupe en réalité des dizaines d'espèces différentes, c'est bien ça, François Thévenon?
Alors, des dizaines, même plus que ça. On estime qu'en France, il y a 15 000 espèces de champignons, champignons sauvages, du genre de ceux que vous pouvez observer à l'œil nu. Hein. Je ne vais pas vous compter là-dessus toutes les levures, tous les micro-trucs qui vont intervenir dans la cuisine ou dans certaines maladies, enfin les trucs microscopiques, on ne les compte même pas là-dedans. Hein. C'est environ 15 000 espèces qu'il va y avoir avec une grosse, grosse diversité de formes, tout ça. Sur ces 15 000 espèces, la plupart des cueilleurs ne s'y intéresseront pas. Hein.
Le nombre d'espèces comestibles parmi ces espèces?
D'espèces comestibles intéressantes, considérons qu'il y en a peut-être entre 100 et 250 sur les 15 000. Hein. Après, la plupart des espèces, il y a une blague qui consiste à dire que toutes les espèces de champignons sont comestibles au moins une fois. Bon, ça fait la blague, c'est quand on va imaginer que les champignons sont soit comestibles, soit toxiques. Alors que la réalité, c'est que l'immense majorité des champignons sont juste non comestibles parce que immangeables, parce que trop petits, que ça va juste se réduire immédiatement en liquide, tout ça, ou ça a un goût absolument dégueulasse, il y a des niveaux d'amertume, ou même quand on aime la gentiane, la roquette ou les petits trucs amers, on a un niveau d'amertume qui est impossible. Ou la consistance, ou même que ce soit trop dur. Il y a beaucoup de champignons qui poussent sur le bois, que vous pourrez observer, ils sont tellement durs que ça ne viendrait pas à l'idée d'essayer de les consommer, d'en faire un mets. Dans la plupart des cas, c'est ça. Donc on estime que des espèces connues et réputées qui valent le coup en tant que comestibles, c'est ça. Il y a des gens qui disent une centaine, il y a des gens qui disent 250. C'est à peu près de cet ordre-là, de celles qu'on va croiser. Après, les plus populaires, il y en a quelques dizaines, effectivement.
Est-ce qu'il y a un point commun, quand même, entre une truffe noire, un cèpe et une algue qu'on pourrait assimiler à un champignon, par exemple?
Non, les algues, elles font de la photosynthèse, c'est des végétaux.
D'accord.
Par exemple, les algues sont des végétaux un peu à part, mais elles font de la photosynthèse. Elles ont dans leurs cellules des petits chloroplastes qui leur permettent de produire leur propre énergie grâce à la lumière du soleil. C'est la photosynthèse. Les champignons ne sont pas capables de faire ça. C'est une des choses qui différencie beaucoup des plantes. Au niveau de la classification du vivant, les champignons sont beaucoup plus proches des animaux, donc de nous, que des plantes.
Intéressant.
Donc les algues, c'est à part. même si parfois on pourrait, voilà, c'est des choses qu'on connaît mal, c'est pas des végétaux à fleurs, donc on les met un peu dans cette grosse catégorie un peu vague, qui était peut-être appelée parfois dans le temps les cryptogames, c'est-à-dire toutes ces choses, on voyait pas les fleurs, donc on avait les fougères, on avait les mousses, on avait aussi les champignons, les lichens, tout ça ensemble. Aujourd'hui, la connaissance est un peu plus précise. Donc après, qu'est-ce que vous me demandiez comme précision entre une truffe et un cèpe, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de commun ?
Et les champignons qui peuvent pousser sous nos pieds, par exemple ?
Ouais, ça c'est encore autre chose. Alors, la classification exacte, qu'est-ce qui définit biologiquement un champignon ? Mes cours sont un peu trop loin, je ne voudrais pas d'un seul coup improviser quelque chose que je n'ai pas complètement révisé.
Bien sûr.
Si, ce qui va, par exemple, ce qu'on va voir comme proximité, pour différencier déjà un champignon d'un végétal, pour faire de la biologie assez simple, les fibres des champignons, c'est de la chitine, c'est-à-dire la même chose que ce qui forme la carapace des insectes, par exemple. C'est ça comme fibre qu'il y a. Et leurs réserves d'énergie sont sous forme de glycogène, comme chez les animaux, et pas sous forme d'amidon. Les stocks d'énergie, de sucre des végétaux sont sous forme d'amidon. C'est ce qu'on va trouver dans la farine, dans les châtaignes, tout ça. Chez les champignons, c'est pas ça. Donc on va pouvoir observer ces choses-là. Après, les caractéristiques exactes, je crois qu'il y a des questions au niveau des graines, savoir de quel côté le flagelle. Vous imaginez un spermatozoïde, par exemple, il y a le petit truc qui permet d'avancer qui est à l'arrière. Selon si elle est à l'arrière ou à l'avant, ça fait partie des trucs de classification en biologie du vivant, compliqué. Mais là, on part un peu loin, peut-être, par rapport si l'intérêt, c'est de savoir comment remplir son panier.
On va rester sur du grand public, mais ouais. Un petit peu de scientifique, quand même. Quels sont les liens de ces champignons sauvages avec les écosystèmes dans lesquels ils poussent ?
Alors, ils sont nombreux, en fait. Il y a trois modes de vie principaux des champignons. Il y a ceux qui vont décomposer la matière morte, qui vont décomposer le bois ou décomposer la paille, par exemple. Parmi celles-ci, il y a les espèces qu'on connaît bien, qui sont par exemple le champignon de Paris, les pleurotes ou le shiitake, qui est un peu à la mode. Puisque ces espèces se nourrissant de matière morte, c'est assez facile. Du moment qu'on leur fournit les bonnes conditions de température et d'humidité, c'est assez facile de leur apporter des copeaux de bois ou de la paille pour les cultiver. C'est pour ça que ce sont celles qu'on peut trouver dans le commerce. Certaines vont avoir comme rôle dans la nature de décomposer le bois mort, puisque sans les champignons, le bois mort s'accumule. Certaines espèces de champignons sont parmi les seules au niveau de tous les écosystèmes à être capables de décomposer le bois mort, de décomposer la lignine présente dans le bois. Donc ce rôle-là est important parmi ces champignons qu'on va dire saprotrophes, donc qui consomment la matière morte. Il va y avoir des champignons parasites qui vont se fixer sur des racines ou le tronc d'un arbre, qui vont vivre à l'intérieur. C'est pas forcément le chapeau qu'on voit apparaître. Encore une fois, c'est le mycélium qui est dedans. Parfois, on voit apparaître le chapeau. Et dans ce cas-là, chez les parasites, ils pompent directement l'énergie de l'arbre en lui nuisant un petit peu à terme. Ça va pas forcément tuer l'arbre tout de suite, mais à l'échelle de quelques années ou dizaines d'années, on sait qu'il est condamné. Et un autre mode de vie particulièrement intéressant pour les écosystèmes, c'est tout ce qui est la symbiose. En fait, ces petits filaments qui sont dans le sol dont je vous parlais, le mycélium, va aller s'associer avec les racines des arbres et permettre un échange. D'un côté, les champignons, le mycélium, va apporter beaucoup de minéraux qu'il est capable d'aller trouver dans le sol, de décomposer les minéraux du sol pour les rendre disponibles à l'arbre. Et l'arbre, de son côté, lui, fait la photosynthèse, comme je disais, avec les algues. Donc, c'est un végétal, il fait de la photosynthèse, donc il est capable de produire de l'énergie rien qu'avec le dioxyde de carbone et la lumière du soleil. Le champignon, lui, il ne peut pas. Il faut qu'il aille trouver l'énergie ou tout ça auprès de quelque chose d'autre. Donc, il y a une symbiose, il y a un échange. L'arbre fournit aux champignons, l'arbre ou d'autres plantes, je vous donne l'exemple de l'arbre, mais il y a plein de plantes annuelles aussi qui vont faire des symbioses par leurs racines avec les champignons mycorhiziens, c'est ça le terme. Donc faire un échange qui est bénéfique pour les deux parties. C'est une des choses qui fait entre autres que quand on regarde une forêt, même en période de sécheresse, elle résiste beaucoup, beaucoup plus longtemps, puisque cette association-là avec les champignons lui permet aussi d'être plus résistante, d'aller chercher de l'eau plus profondément, parce que le mycélium des champignons va aussi faire circuler de l'eau et plein de choses comme ça.
En parlant de forêt, on peut peut-être dire un mot de la forêt de Soue dans laquelle vous proposez des découvertes avec des amateurs. Est-ce que cette forêt que l'on sait riche géologiquement et avec une faune et une flore particulièrement préservée, est-ce qu'elle est également particulièrement intéressante pour les champignons ?
À partir du moment où il y a de la diversité de milieux, donc de type de sol, de type de plantes, il y a une diversité de champignons qui vient avec, forcément. À peu près, de toute façon, c'est une règle générale. Pour avoir de la biodiversité, il faut une diversité de milieux. Plus on a de milieux. Si on a une grande forêt, mais qu'elle est partout pareille, il ne va pas y avoir beaucoup d'espèces. Là, à Sous, effectivement, comme il y a, sur le plan géologique, c'est assez particulier, il y a aussi une diversité de milieux, donc une diversité de milieux simplement pour que les champignons viennent au sol, mais aussi une diversité de plantes avec lesquelles vont s'associer ces espèces de champignons, vu que certaines espèces sont associées strictement à certaines espèces de plantes. Mmh. Il y en a qui vont pousser que sous les aulnes, qu'avec les chênes, qu'avec des pins. Si, par exemple, il n'y avait pas de pins, on va oublier tout ce qui vont être les lactaires délicieux, des choses comme ça, qui sont des espèces, une espèce, et puis les autres qui ressemblent, qui sont assez populaires, qui ne poussent que sous les pins. Donc s'il y a des endroits où il y a des pins, ça me permettra de trouver ces espèces-là. Et c'est vrai qu'en forêt de Sous, il y a des zones plutôt avec des résineux, des zones avec plutôt des feuillus, c'est assez varié. Je ne prétendrai pas bien connaître la forêt de Sous, hein. Je ne suis pas suffisamment du coin, mais si j'y ai proposé une sortie, c'est parce que je savais qu'il y avait du potentiel en tout cas.
On peut peut-être parler un peu plus de ces sorties, de ces balades de découverte et d'identification des champignons que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous en faites régulièrement dans le département ?
Alors, dans la Drôme, c'est peu, puisque moi j'habite pas ici, je réside en Île-de-France, près de Fontainebleau. Là-bas j'en fais pas mal des sorties, alors je suis plutôt sollicité à l'automne, bien sûr. C'est surtout d'août jusqu'à novembre que je vais pouvoir en proposer. Quand j'interviens sur les plantes sauvages comestibles, c'est beaucoup plus à l'année, hein. Si je dois présenter des orties, les orties en gros de mars à novembre, il n'y a pas de problème, elles sont belles. Et je sais où les trouver. Pour les champignons, c'est un peu plus difficile puisqu'il y a cette condition de météo qui intervient. Et sinon, dans le coin, je m'étais renseigné. Déjà, c'est la deuxième fois cette année que j'en ai proposé une aux alentours de Diolfi. L'année dernière, j'étais intervenu puisque j'avais discuté de ça un peu avec des amis du coin qui sont dans tout ce qui est un peu nature, agriculture bio et plantes sauvages, toutes ces choses-là. Et qui m'avait dit qu'il y avait personne tellement dans le coin qui trouve qu'il puisse leur proposer de sortir sur les champignons. Je sais que sur les plantes sauvages comestibles, il y en a quelques-uns. Il y a Max, entre autres, Max Roumazet, qui fait des sorties très bien, qui est un bon botaniste, qui est même meilleur que moi, qui fait des sorties. Donc je sais que sur le sujet, il n'y a pas de raison que je vienne là dans la Drôme, qui n'est pas particulièrement mon territoire, pour intervenir. Mais comme sur les champignons, apparemment il y avait une demande et personne pour y répondre, je me suis proposé l'année dernière de faire une balade au niveau du col de Vesque. Et là, j'en ai refait une cette année, à l'occasion de mon passage pour les vacances de Toussaint. Et là, cette fois-ci, c'était en forêt de Sous.
D'accord.
Et après, selon la demande, il est probable que je repropose l'année prochaine, vu qu'apparemment, ça peut séduire, ça peut plaire. Et puis, avec le bouche à oreille, ceux qui sont déjà venus auront peut-être l'envie de revenir les prochaines fois.
Parler du livre que vous avez écrit, Le Petit Guide des Champignons. Mm-hmm. C'est un petit livre qui tient vraiment facilement dans la main, qui permet du coup, enfin qui a été pensé, j'imagine, pour partir en promenade en forêt pour aller aux champignons, c'est bien ça?
Alors, ce petit livre, c'est une commande qu'on m'a faite. Hein. Je ne me suis pas dit un jour, François, qu'est-ce que t'es savant, vas-y, écris un bouquin pour diffuser la connaissance. C'est que les éditions First ont toute une collection de petits guides sur différents thèmes nature. Il y en a sur les papillons, sur les plantes médicinales, sur, je crois qu'il y en a un sur les nuages, enfin, il y a tout un thème. Et pour celui sur les champignons, ils m'ont contacté. J'ai essayé de le faire. C'est un exercice compliqué, puisque c'est effectivement un tout petit livre qui ne fait que 150 pages, qui présente seulement 70 espèces. Alors j'ai dit qu'il y en avait 15 000, moi-même de tête, pour présenter la diversité, j'en aurais facilement 100 à 150 qui me viendraient. J'ai dû me limiter à 70, tout en essayant d'aborder un maximum des thèmes qui me paraissaient importants. Je pense qu'il est bien à lire une fois chez soi, avant d'aller, puisqu'il y a toute une partie d'introduction où je rappelle un peu tout ce dont on est en train de parler là aussi. Hein. Les modes de vie des champignons, les principes de base pour les aborder, comprendre leur rôle à des tas de niveaux. J'ai profité aussi de ces 70 espèces pour faire un panorama un peu de la diversité. Je n'ai pas mis que ce qui se mange ou ce qui ne se mange pas. Voilà, c'est tout un truc comme ça. Mais pour chacune de ces espèces, je me suis appliqué à bien expliquer comment les reconnaître. Donc, si vous avez le bouquin dans la poche, que vous êtes en forêt et que vous tombez sur un cèpe, il suffit d'ouvrir à la page du cèpe et de vérifier effectivement que tous les caractères sont bien présents, et généralement j'ai aussi indiqué les risques de confusion. Donc c'est un livre qui n'est absolument pas exhaustif, mais que si on veut y aller aborder quelques espèces qui sont des espèces communes, il peut tout à fait servir d'aide-mémoire, et on l'a dans la poche pour le sortir à ce moment-là. Ça, il fait bien ça. Et pour découvrir des bases sur les champignons dans l'ensemble, j'ai essayé qu'il fasse plutôt bien. Et jusqu'ici, des retours que j'en ai, a priori, c'est pas trop raté.
Sur ces balades de découverte, d'observation des champignons, est-ce que vous en avez de prévues dans les prochaines semaines ou prochains mois, notamment dans la Drôme ?
Non, alors pas pour là, parce que la saison de toute façon va vite se terminer, c'est un peu ça, c'est septembre-octobre. En fonction de la demande, je pourrais envisager d'intervenir à d'autres moments, mais pour le moment, je l'ai fait juste moi, comme ça, parce que j'ai l'occasion de passer et de le proposer. De toute façon, disons qu'à partir de mi-novembre, c'est beaucoup moins propice et que moi, je préfère proposer ces sorties assez tôt en saison pour que les gens qui y viennent, à qui je présente les façons d'observer des champignons, aient l'occasion de pratiquer. Puisque le défaut de la mycologie de terrain, c'est que la saison est courte et que moi-même, vous me demanderiez au mois d'août ou début septembre de vous parler de champignons ou d'identifier les espèces, c'est beaucoup plus compliqué que quand on arrive fin octobre et que j'en ai vu plein. Donc je pourrais envisager peut-être pour l'année prochaine d'en prévoir plus, puisque j'ai observé cette demande. Il y a pas mal de gens qui sont venus avec qui j'en ai discuté, qui m'ont dit justement pouvoir en faire plus. Donc il est tout à fait possible que pour l'année prochaine j'en prévois un peu plus pour qu'il puisse y avoir répétition, retour. Surtout que sur une seule balade, j'arrive pas. Le sujet est trop large pour pouvoir tout retenir en une seule fois. J'aborde beaucoup de choses et selon l'opportunité des espèces qu'on rencontre, chaque balade est différente. Donc j'aborde des choses. C'est bien que les participants aient l'occasion de voir par eux-mêmes, d'y réfléchir, de digérer un peu tout ce que j'ai pu leur raconter et d'avoir l'occasion d'y revenir et d'être de nouveau accompagné, peut-être pour poser des questions qui leur sont venues entre-temps. Des choses comme ça. Donc effectivement, je pourrais souhaiter, peut-être pour l'année prochaine, effectivement, en proposer plus.
On renvoie les auditeurs vers votre page Facebook, François Thévenon.
Ouais.
Vous proposez ces événements de manière récurrente. Il reste quand même encore quelques semaines avant les premières gelées pour profiter des champignons
Oui, pour aller à la cueillette. Courant novembre. Ouais, tout à fait, pour aller à la cueillette, courant novembre.
Un petit peu plus même, début décembre.
Ça dépend des gelées, en fait. Quand il commence à geler, vous pouvez encore trouver des champignons. Après, le problème, c'est que des champignons peuvent paraître très beaux, mais avoir gelé. Et gelé, vous savez, c'est comme au congélateur. On ne recongèle pas quelque chose, voilà. Ça risque d'activer un développement des bactéries et de bactéries qui peuvent rendre malades. Et même si le champignon a encore un bon aspect, il risque de devenir toxique. Donc, par prudence, quand les gelées commencent, on ne va plus récolter. Alors, s'il y a un petit -1, la nuit, ce n'est pas encore méchant. Mais quand il commence à y avoir des gelées un peu plus importantes que ça, par prudence, il vaut mieux arrêter. En tout cas, éviter de les consommer. On peut continuer de les observer. Tant qu'il y en a observé, si c'est par curiosité, pour observer les champignons comme on l'observerait n'importe quel élément du vivant, hein, comme on peut aller observer. Comme je le dis souvent, les gens viennent aux champignons pour savoir comment les cueillir, mais si je leur faisais une balade sur les papillons ou sur les lézards, ils ne me demanderaient pas si ça se mange. Et pourtant, ils pourront en être curieux, comme place dans la biodiversité. Et pour aller à la cueillette, je suggère d'abord de s'intéresser aux champignons dans l'ensemble, pour apprendre à tous les observer, sans non plus devenir un grand spécialiste, mais au moins avoir cette curiosité. Et une fois qu'on a acquis des bases, pouvoir aller avec plus de confiance à la cueillette.
L'idée d'une sortie cueillette de champignons, c'est qu'on en trouve ou qu'on n'en trouve pas d'ailleurs, c'est comme vous le dites, de profiter de la nature environnante et d'être émerveillé peut-être par ces forêts et ces organismes qui y vivent, tout simplement.
Tout à fait, c'est ce que je constate aussi souvent, même quand des gens viennent a priori, parce que quand on leur parle de champignons, ils pensent cueillette, donc souvent ils viennent avec un panier. Et souvent, à la fin de la balade, même s'ils n'ont pas rempli leur panier de choses comestibles, ils sont surpris, agréablement surpris de la diversité qu'il y a, diversité de formes, diversité de couleurs, diversité d'odeurs aussi, qui n'est pas forcément ce qu'on va essayer. Mais là, par exemple, samedi, on a eu une odeur de farine, on a eu une odeur qu'on s'est fait passer le champignon sous le nez, on a tous trouvé que ça sentait la peau de saucisson, le côté un peu sec. C'était amusant, il y a des tas d'odeurs comme ça qu'on peut avoir, une grosse diversité. Il y a des odeurs de noix de coco dans les champignons, des odeurs d'abricots secs. Il y a des odeurs très puantes aussi, il y a tout ça. Il y a toute une diversité qui, généralement, est méconnue, mais plaît beaucoup. C'est vrai qu'on observe moins... moins souvent les champignons que ce qu'on observe les plantes. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose de grande diversité, très large, qui est agréable à entrevoir et à explorer.
Mmh. Au-delà des champignons, vous vous intéressez à la nature comestible, si on peut dire. Est-ce que, notamment en automne, est-ce qu'il y a d'autres des aromates, ou des, peut-être pas de fleurs, mais des espèces intéressantes à observer, puis éventuellement à cueillir, à cuisiner
Tout à fait. Ce que je conseille généralement aux gens qui sortent avec un panier et qui ne veulent pas revenir bredouille, plutôt que de ramasser n'importe quoi comme champignons, ramasser des châtaignes, par exemple. Alors, on évite de les ramasser aux endroits où ça a bien été tondu en dessous, parce que généralement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les récolte à cet endroit-là. Il y a beaucoup de châtaigniers dans le secteur qui ont un propriétaire, puisqu'il y a une production de châtaignes. Mais sinon, à l'opportunité, on peut récolter de la châtaigne, effectivement. Il y a des endroits où on va trouver du thym, il y a de nombreuses petites plantes sauvages qu'on peut trouver encore en cette saison, plutôt les ligneuses. C'est vrai que celles un peu annuelles, avec des feuilles vertes, tout ça, vont commencer à être un peu sèches, un peu abîmées, moins appétissantes. Mais il y a une grande diversité, effectivement, de plantes sauvages comestibles. Dans le secteur aussi, il y en a pas mal.
Androme provençal, on conseille aux gens plutôt d'aller dans les forêts domaniales ou publiques, plutôt qu'éviter d'aller dans des forêts qui sont souvent privés, finalement.
Tout à fait. Comme je le disais, bon, pour les châtaignes, mais même pour le reste, si on va dans une petite parcelle et qu'on ramasse un gros panier de cèpes, s'il se trouve que cette parcelle est privée, bon, peut-être qu'il y a des propriétaires qui ne comptent pas sur leur récolte de champignons, mais il y en a peut-être d'autres qui y comptent. Voilà, il faut comprendre que tous les bois qu'on voit alentour ne sont pas forcément des bois publics, donc on va privilégier les forêts domaniales. C'est pour ça que la forêt de Soux, qui est une forêt départementale, je l'ai privilégiée. Les forêts municipales sont assez peu nombreuses, sinon il suffit de demander l'accord du propriétaire. Mais il faut bien comprendre qu'on est en train de récolter une production de cette terre. Donc si le propriétaire comptait dessus, ça ne se fait pas d'aller récolter, on lui demande l'autorisation. Et en forêt domaniale, même dans l'ensemble, il y a une règle. L'ONF, par exemple, sur la plupart des zones qu'elle gère, la limite est de un seau, un panier, c'est-à-dire environ 5 litres par personne, par jour. Voilà. Mmh. Donc si vous allez aux champignons, vous revenez avec un panier, c'est raisonnable. Si vous commencez à en remplir votre coffre avec des paniers et des paniers, là, c'est excessif. Et s'il y a quelqu'un, un garde de l'ONF qui vous tombe dessus, vous risquez de vous faire saisir vos paniers et d'avoir une amende, puisque ce n'est plus de la simple consommation. Il faut être raisonnable par rapport à ça.
On s'en tiendra de quoi faire une ou deux omelettes.
À vrai dire, moi, je préfère les fricassés que les omelettes, parce que je trouve que l'œuf couvre le goût. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Une consommation raisonnable, quitte à en sécher un peu. Ça fait déjà largement de quoi faire si on veut effectivement se faire une omelette, en faire sécher pour en profiter pendant quelques temps, partager aux amis. Et puis si on y va souvent, si vraiment pendant la saison, on va très souvent à la cueillette, on a quand même de quoi en ramasser pas mal. Mais c'est pas une production, dès qu'on rentre dans le domaine, dans des gros volumes, qu'on envisage d'en revendre, par exemple, ça devient une activité qui doit être déclarée et qui, voilà, comme toute activité de vente ou de production. Mmh. On est dans un autre domaine, c'est plus du loisir.
Mmh. Peut-être pour terminer, François Thévenon, une question un peu naïve, on parle souvent de coin à champignon. Alors si on ne connaît pas de coin à champignon, comme moi-même par exemple, est-ce qu'on peut en découvrir soi-même ou avec d'autres, enfin, quels sont les... Vous en parliez un petit peu au début de l'émission, mais vers quoi se diriger quand on se promène entre amis ou seul en forêt, vers la mousse, j'imagine?
Ouais, vers la mousse ou pas forcément. Ça dépend complètement des espèces qu'on recherche. Si par exemple, on s'oriente vers le lactaire délicieux. Le lactaire délicieux, je trouve que c'est une bonne espèce pour commencer. C'est un champignon un peu en forme d'entonnoir, qui est orange, et que quand on le casse, il y a du jus orange qui coule. Tout de suite orange. Avec ces critères-là, il n'y a pas de risque d'aller vers une espèce toxique. Il y a le lactaire délicieux, il y a le sanguin qui lui coule violet. Il y a deux, trois espèces comme ça qui ressemblent. Il n'y en a aucune qui soit vraiment toxique. Donc, on ne prend pas trop de risques en allant récolter ça. Et ça, on va le trouver sous des pins. Exclusivement sous des pins. Pas sous des sapins, pas sous des épicéas. Il faut bien faire la différence, là aussi. Il faut savoir reconnaître les arbres. Mais sous des pins. Si on cherche ça, on va aller dans des forêts de pins. On a d'assez bonnes chances d'en trouver. Après, c'est une question de type de sol. Si je cherche du champignon qui pousse en prairie, ben, je vais aller au milieu d'une prairie, je ne vais pas le trouver en sous-bois. Ce qui est bien, c'est d'avoir ses habitudes, mais surtout d'abord d'entraîner son regard. Pas d'aller dans un coin à champignons si on ne sait pas reconnaître les champignons. D'abord apprendre à observer et reconnaître les champignons. Et après, ça vient tout seul, en fait. Il suffit de se balader, ne serait-ce que de se balader pour le goût de la balade. Et quand on est en balade, déjà la forêt elle est belle, ça vaut le coup. On va en balade, c'est chouette. On tombe sur des champignons, si on s'est un petit peu entraîné à la reconnaître, là on peut les récolter. Et c'est comme ça qu'on découvre des coins à champis. Si je vous indiquais des coins à champis, parce que si je vous disais, tiens, à tel endroit l'année dernière, j'ai récolté plein de cèpes, et que vous y allez, ça ne vous aidera pas à reconnaître les cèpes. Et puis, à une semaine près, ce ne sera plus le moment. Ce ne sera pas le bon moment, parce qu'ils vont tous sortir en fonction de plein de choses. C'est plus compliqué que ça. Il y a quelques espèces de champignons, comme les morilles, par exemple. Les spécialistes des morilles, alors c'est des fous, les morilleurs. Eux, ils ne partagent pas leur coin, quoi, parce que... voilà. Et puis souvent, il y en a qui se font un petit billet quand même en leur vendant un petit peu. Donc, c'est un revenu complémentaire. Donc, ils partageront moins. Moi, j'aurais tendance... voilà, je ne garde pas mes coins secrets. Quand il y a un endroit que je connais, généralement, je le partage volontiers avec les amis dans le coin. Il y a deux, trois espèces que je sais abondantes à certains endroits autour de Diolfi que je partage volontiers quand je vois que c'est la saison. Voilà.
D'accord. On encourage tout le monde à aller se promener, à découvrir par ces...
D'abord, aller se promener. On n'est pas dépendant des champignons pour se nourrir. C'est un plus. C'est pas une base. On n'a pas besoin de ça. En revanche, on a besoin de se balader dans la nature. Ça fait du bien au corps. Ça fait du bien à la tête. C'est bon pour les yeux. C'est bon pour la respiration. C'est bon à tellement de niveaux. D'abord, profiter de la nature si on veut, pour se faire plaisir. Et après, la cueillette, c'est bonus.
On va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, François Thévenon. On renvoie une dernière fois vers votre livre, Le Petit Guide des Champignons, aux éditions First.
Tout à fait.
Et puis vers votre page Facebook, François Thévenon.
François Thévenon, sauvage comestible et gastronomie végétale. Sinon, c'est ma page perso, je ne parle pas de champignons. Mais sur ma page pro, François Thévenon, sauvage comestible, gastronomie végétale, je partage donc des choses, j'annonce mes sorties, je parle un peu de champignons, de plantes et d'autres choses pour aller plus vers la nature.
Merci encore, à bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Radiola.media.